Question et réponse numéro 38. L'attitude de Krishna. 4. Comment notre attitude influence les autres? Prêché le 16 décembre 2007. Pasteur Brian Kozurek. Avant de commencer notre message de ce matin sur l'attitude de Christ, je voudrais dire que j'ai énormément apprécié cette étude. Au cours des dernières années, j'ai vu notre capacité à regarder la parole vivante de Dieu et à la voir devenir plus claire que jamais auparavant. La Bible nous dit de diviser correctement la parole de vérité. Ce que je vois, c'est un affinement de plus en plus important. Les choses deviennent plus claires que jamais. Dès que l'incroyant pose une question, la parole qui vit et demeure dans notre cœur a la réponse à son incrédulité. Dans Hébreux 4, nous lisons que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Qu'elle pénètre jusqu'aux articulations et à la moelle des os. Il nous a été donné un miroir de la parole, capable de voir au microscope des choses dans cette parole que d'autres sont passés à côté à travers les âges, et n'ont jamais rêvé de voir. L'homme qui n'est pas né de nouveau réside dans les cinq sens externes du corps et avec ses cinq sens de la vue, du goût, de la sensation, de l'odorat et de l'ouïe, ils ont été capables de se rapprocher de plus en plus de l'invisible, jusqu'à disséquer des atomes. L'apôtre Paul a dit, Éphésiens 5:13, mais tout ce qui est réfuté, convaincu ou prouvé, est manifesté par la lumière, car ce qui est manifesté est la lumière. Nous pouvons donc voir que les grands progrès de l'homme dans le domaine de la science n'ont été possibles que grâce à sa capacité à utiliser les lumières. Et maintenant, l'homme est arrivé au point où il peut voir avec ses yeux, à l'aide du microscope électronique, ce qu'on appelle l'espace intérieur et, comme il a perfectionné son utilisation de la lumière avec ses microscopes, il est capable de voir de plus en plus clairement jusqu'à ce qu'il découvre qu'il y a un univers bien plus grand à l'intérieur de l'atome, que dans ce que nous avons appelé l'univers ici, où nous voyons le soleil, la lune, les étoiles et les planètes. Un univers bien plus vaste se trouve dans ce qui a été invisible pendant des siècles, et qui est maintenant rendu visible par la lumière. Les hommes, grâce à la science, en comprenant comment utiliser les principes naturels de la lumière, sont capables de voir plus clairement ces choses qui ont été cachées d'âge en âge. Et grâce à la lumière, ils utilisent ce qui leur a été donné dans les sciences naturelles pour regarder l'invisible avec des instruments qui deviennent de plus en plus puissants au fil des ans. Et dire qu'ils n'aiment font que regarder avec l'œil naturel. Ils le font avec seulement les cinq sens externes. Alors, qu'en est-il de nous qui avons reçu une telle illumination qui va au-delà de ces sens extérieurs? Lorsque nous avons reçu l'accès à la lumière de sa glorieuse présence, et que nous avons reçu la capacité de connaître et de comprendre les cinq sens intérieurs, l'imagination, la conscience, la mémoire, la raison et l'affection, les sens de l'esprit, et ensuite ce sens intérieur appelé la foi, car par la foi nous pouvons voir dans l'invisible. Et dire qu'avec les cinq sens externes qui ont été donnés à l'homme pour contacter sa maison terrestre, l'homme a pu se rapprocher de plus en plus de l'invisible en disséquant les atomes. Et qu'il est maintenant arrivé à ce qu'on appelle l'espace intérieur, et il a découvert qu'il y a un univers bien plus grand à l'intérieur de l'atome qu'il n'y en a dans l'univers entier que nous pouvons voir avec des télescopes. Qu'en est-il de nous? Nous sommes ceux qui se tiennent en présence du Créateur de l'univers lui-même. Il est la lumière suprême des lumières. Quel genre de vision devrions-nous avoir alors que nous grandissons dans la sagesse et la révélation de notre Seigneur Jésus-Christ? Alors, comment devrions-nous voir de plus en plus les choses de Dieu qu'il a si volontiers apporté à nous par l'intermédiaire d'un prophète confirmé, et par sa présence personnelle parmi nous sous la forme d'une colonne de lumière? Les choses deviennent de plus en plus claires à mesure que nous nous approchons de la source de cette lumière, qui est la glorieuse présence de Jésus-Christ. Combien nous devrions être capables de voir des choses qu'aucun homme n'a jamais vues auparavant. Car l'Écriture nous dit, Jean 1, 4 en lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. 5 et la lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et nous savons que lorsque cette lumière frappe les endroits sombres, elle apporte l'illumination à ces endroits. Et l'apôtre Pierre nous a dit que lorsque cette lumière se manifestera, elle illuminera les endroits sombres. Et les mystères cachés seront révélés. De Pierre 1, 19 nous avons aussi une parole de prophétie plus certaine, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour se lève, et que l'étoile du jour se lève dans vos cœurs. Et pourtant le monde continue dans les ténèbres concernant le Créateur qui leur a donné la lumière naturelle, parce qu'ils ont refusé la lumière de son glorieux évangile. En fait, l'apôtre Paul a dit, 2 Corinthiens 4, 3 « Mais si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui se sont perdus. 4 Le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence de ceux qui n'y croient pas, afin que la lumière du glorieux évangile de Christ, qui est l'image de Dieu, n'y brille pas à leurs yeux. Et c'est ainsi que la lumière du glorieux évangile s'est manifestée dans nos cœurs, apportant la lumière sur la parole de Dieu qui se trouve dans nos cœurs, révélant les profonds secrets de Dieu qui ont été cachés depuis les fondations du monde, mais qui nous ont été révélés en cette heure par la présence de cette grande lumière, la colonne de feu qui est ici au milieu de nous. Frère Branham a dit, dans son message, Ayez foi en Dieu souligné 00 septembre 1954 souligné New York, USA paragraphe 13 qu'est-ce ce qui nous arrive, chrétiens? Nous avons abandonné notre responsabilité. C'est exact. La science a amené l'homme avec ses 5 sens plus loin que les prédicateurs Néhémie l'ont fait avec son âme, son esprit, qui est de loin, supérieur à sa science. J'aimerais tout simplement vous poser une question. Beaucoup d'entre vous ici, frères, vous pourriez retourner dans le passé avec moi jusqu'à l'époque du vieux modèle T, la science pourra uniquement. Maintenant, écoutez juste avant que je n'aie mis termine, voici une observation dont je veux que vous vous souveniez. L'efficacité de la science réside dans cette capacité de maîtriser les mesures. Plus la science peut faire des calculs précis, plus puissants deviennent les hommes de science. Et plus l'Église peut mesurer avec précision, plus puissante deviendra l'Église. 14 La science. Il y a environ 35 ans, Néhémie pouvait faire que des mesures de l'ordre d'un 10 000ème de pouce. Avec cela, ils ont pu fabriquer la Ford Model T, avec un segment de piston d'un 10 000ème de pouce, qui pouvait la propulser à la vitesse vertigineuse d'environ 25 miles à l'heure, 40 km heure. Au-dessus de cela, on a placé une bougie, une valve pour pomper le gaz vers le haut, le gaz qui était allumé par la bougie, mais ce gaz perdait une bonne partie de cette compression en s'échappant par une ouverture d'un 10 000ème de pouce. C'est seulement avec cela qu'on pouvait conduire le véhicule. Quand vous atteignez 35 miles à l'heure, 56 km heure, c'était une excellente Ford Model T très rapide. Eh bien, se sont-ils arrêtés là? Pas du tout. À présent ils peuvent descendre jusqu'à un 100 000ème de pouce. Ils réduisent leurs mesures, ils font des calculs plus précis. Eh bien, ils peuvent mettre cette même Ford, ou ce même piston dans un avion à réaction et le propulser pratiquement à 600 miles à l'heure, 965 km heure, avec la même bougie produisant une étincelle au-dessus de ce piston. Comment expliquer cela? Ils peuvent faire des calculs plus précis, de sorte qu'il n'y ait aucune fuite. La pression s'exerce là. Mais vos mesures n'étaient pas assez précises. Ils peuvent même prendre ce 100 000ème de pouce et scinder un atome avec cela. Est-ce qu'il s'arrête? Non. Il continue à aller de l'avant. Mais nous? Oh. Eh bien, nous nous contentons de ce qu'a dit Moody, de ce qu'a dit Finney. C'était des hommes bien. C'était des chrétiens, des frères qui sont dans la gloire. 15. La première fois que l'étalon de mesure fut fait sur la, placé sur la parole de Dieu. Comment mesurez-vous cela ce soir? Quelle valeur la parole de Dieu a-t-elle pour vous? Maintenant, écoutez, chrétien, Martin Luther est revenu et il l'a placé sur le catholicisme, et il a découvert que le juste vivra par la foi. Il a laissé une grande brèche là. Beaucoup de choses sont passées. Mais lui croyait que le juste devait vivre par la foi, et l'Esther sortit sur base de cela, parce que c'est Esther ce que dit la parole de Dieu. Il a donné la mesure de la parole de Dieu au peuple, le juste vivra par la foi. Ensuite vint un petit homme de l'Angleterre répondant au nom de John Wesley, il a donné une mesure plus précise. Il a pris une mesure plus serrée, il a pu prendre une mesure plus précise, là, sanctification, comme on l'appelait à cette époque-là, la seconde œuvre de la grâce. Considérez ce qu'il a fait, il a présenté la sainteté à l'Église. C'est puis vint la Pentecôte qui donna la mesure du don du Saint-Esprit, le parler en langue et les miracles. Mais on laisse une grande brèche. Ce soir donnant les talons de mesure de Dieu et mesurant toute la parole de Dieu. Le même Saint-Esprit qui mit le feu aux pistons autrefois et qui les fit sortir par la foi, la justification, le même Saint-Esprit a donné la sanctification, le même Saint-Esprit a donné le baptême du Saint-Esprit, cette même puissance, le même Saint-Esprit peut amener l'Église à la perfection, et c'est ce qui se fera, pour tout ce que Dieu a promis dans sa parole. Dieu va le faire. Le problème est que, faisant sortir le monde, mesurant la parole de Dieu, et c'est la vérité. Ayez foi en Dieu, a dit Jésus. Car si vous dites à cette montagne, ôte-toi, et si vous n'aimez, doutez pas de cela, elle fera exactement ce que vous lui avez ordonné. N'est-ce pas merveilleux? Mesurons la chose. Peu m'importe. Les luthériens sont des gens merveilleux. Les baptistes sont des gens merveilleux. Les méthodistes sont des gens merveilleux. Les pentecôtistes sont des gens merveilleux. Toutes ces différentes choses, c'est en ordre. Mais mettons carrément cela de côté et disons que chaque parole de Dieu est vraie. Tout ce que Dieu a dit est parfait. Et s'il l'a dit, tout ce que vous désirez, quand vous priez, croyez que vous l'avez reçu. Je crois que c'est la vérité. Ô Dieu, laisse-moi placer ma canne à mesurer sur mon âme et la mettre sur la parole de Dieu, en disant, ô Dieu, c'est la vérité, envoie l'onction du Saint-Esprit et mets le feu au cylindre qui est au-dessus de moi. J'en crois chaque parole. Et vous verrez des choses arriver. Croyez-vous cela? Jean 2, à mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous n'ayez mis péché point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. De l'Esther lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. 4. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui n'y garde pas ses commandements, Esther est menteur, et la vérité n'est point en lui. 5. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui, par là nous savons que nous sommes en lui. Si celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. 7 Bien-aimé, ce n'est-ce pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. 8 Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous. Car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. 9 Celui qui dit qu'il est dans la lumière, et qui est son frère, est encore dans les ténèbres. 10 Celui qui aime son frère demeure dans la lumière, et aucune occasion de chute n'est en lui. 11 Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres, et il n'est mis où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. 12 Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Ce matin, nous allons conclure notre étude sur l'attitude de Christ. Ce sera le numéro 4 de notre série. Je voudrais concentrer notre attention ce matin sur le 5e point concernant l'attitude de Christ, à savoir comment une mauvaise attitude peut paralyser notre marche, et la marche de ceux sur lesquels nous avons de l'influence. Jusqu'à présent, en examinant l'attitude de Christ, nous avons vu qu'une attitude n'est pas une conception mentale. Ce n'est pas non plus quelque chose qui réside uniquement dans l'esprit. Le mot attitude Naemi fait pas référence à l'esprit, mais plutôt à l'expression corporelle de vos pensées, de vos sentiments et de vos émotions, qui se manifeste par un certain langage corporel. Rappelez-vous de l'étude de frère Branham sur le corps tripartite, selon laquelle nous sommes des êtres tripartites. Nous avons un corps qui a 5 sens. La vue, le goût, la sensation, l'odorat et l'ouïe. Avec ces sens, nous entrons en contact avec notre demeure terrestre. L'amnésie spirituelle 11 avril 1964 souligné Birmingham, Alabama, USA, paragraphe 29 maintenant, j'aimerais. Vous devez être identifié. Vous devez montrer quelque part, votre vie montre ce soir, là où vous êtes identifié. Vous êtes identifié soit en Christ soit hors de Christ. Vous n'êtes pas à moitié. Il n'existe pas d'homme à la fois ivre et sobre. Il n'existe pas d'oiseau à la fois tout noir et tout blanc. Soit vous êtes sauvé, soit vous n'êtes pas. Soit vous êtes saint, soit vous êtes pécheur. C'est l'un ou l'autre. Et votre attitude spirituelle vis-à-vis de la parole de Dieu identifie exactement où vous vous tenez. Maintenant, ce que je voudrais vous faire comprendre ce matin, c'est que notre attitude n'est que le reflet de la condition de notre âme. Et les actions que nous faisons, n'émis sont que le reflet de cette condition. En fait, frère Branham a dit, dans le message, Jairu et la guérison divine souligné 16 février 1954 souligné Wood River, Illinois, USAE 37. Ce que vous êtes ici est un reflet de ce que vous êtes quelque part ailleurs. Ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Est-ce vrai? Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Déjà dans la présence du Père, nous avons un corps glorifié. Ouf! C'est profond, n'est-ce pas? Très bien. Nous allons voir si c'est vrai ou pas. Si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous en avons déjà une qui attend. Est-ce vrai? C'est vrai. Ainsi maintenant même, et ce que nous sommes là, c'est le reflet. Ici, ce que nous sommes ici, c'est un reflet de ce que nous sommes quelque part ailleurs. Si donc vos œuvres sont mauvaises, vous savez d'où cela vient. Vous savez là où est en votre autre corps. Maintenant, nous pouvons regarder à nouveau les hommes dans la Bible, pour voir comment leur attitude a influencé leur entourage. Si nous regardons le premier Exode, nous constatons qu'il y avait des hommes dans le camp d'Israël qui avaient un effet négatif sur les autres dans ce camp, par leurs actions et les choses qu'ils disaient. Regardez comment Dathan et Coré n'arrêtaient pas de dire des choses négatives jusqu'à ce que cela ait un effet sur ceux qui les entouraient. Et qu'Esther ce que cela a produit? Ils ont tous péri. Oui. Leur propre attitude a influencé ceux qui les entouraient, jusqu'à ce qu'ils périssent tous dans le désert. L'influence soulignée 12 janvier 1963 soulignée Phoenix, Arizona, USA. Paragraphe 13. Vous savez, il y a tant de personnes parmi nous, et la plupart d'entre nous tous, nous influençons quelqu'un par ce que nous faisons, par la manière dont nous vivons et par ce que nous disons. Nous influençons quelqu'un. Quelqu'un observe votre vie. Et puis, quand nous confessons que nous sommes des chrétiens, quel genre de vie devrions-nous mener si quelqu'un nous observe? Et la vie que vous menez exerce une influence sur quelqu'un qui pourrait être le. Sa destinée éternelle reposera sur la manière dont vous vivez et les choses que vous faites, car il vous observe. Et dans notre texte de ce matin, l'influence, nous voyons que ce roi Ozia exerçait une grande influence sur le jeune prophète. Esaïe, de son côté, était un prophète confirmé et distingué de son temps, et il avait une. Je pense que selon la manière dont Esaïe l'a exprimé, il exerçait une grande influence sur Esaïe. 14. Eh bien, nous voyons qu'Ozia était appelé pour être roi à l'âge d'environ 16 ans, après la mort de son père. Et son père fut un croyant affermi, et il avait. Sa mère aussi fut une très brave femme. Et ce jeune roi avait été couronné à bas âge. Et tout de suite il a pris le droit chemin par l'influence d'un père pieux et d'une mère pieuse. Je pense que Esther est un très bon exemple pour nous les parents aujourd'hui, d'être des modèles pour nos enfants. Eh bien, c'est Esther en famille que vous menez une vie plus exemplaire et une vie plus médiocre. Et je pense que nos vies, quoique les enfants n'agissent peut-être pas très exactement tel qu'ils le voient, mais ils voient cela. Néhémie pensait jamais qu'une Néhémie le voit pas, car ils observent. Il n'y a pas que les enfants qui observent, mais les voisins aussi observent. Il n'y a pas que les voisins qui observent, mais tous ceux avec qui vous vous associez aussi vous observent. Les gens dans votre église vous observent. Les gens avec qui vous faites des affaires au marché vous observent après que vous avez fait votre confession. Et nous devrions toujours chercher à refléter Christ dans tout ce que nous faisons. 15. Je connais une petite devise que j'ai accrochée chez moi il y a beaucoup d'années. Je l'ai eue un jour au tabernacle de Billy Sunday au cours d'une des réunions là, à Winona Lake. Et je l'ai tellement appréciée que je l'ai prise et je l'ai accrochée dans ma maison. Je l'ai gardée jusqu'à ce qu'elle s'estère pratiquement abîmée. Elle disait quelque chose comme ceci, n'allez à aucun endroit où vous n'aimisseriez. Où vous n'aimeriez pas qu'on vous trouve si Jésus venait. Et n'aimez dites rien que vous n'aimeriez pas être en train de dire si Jésus venait. Et il y avait encore toute une suite de choses. Ce que vous. En d'autres termes. Tout ce que vous faites ou tout ce que vous dites. Ou tout acte que vous posez. N'aimez le faites pas si vous n'aimez voulez pas. Qu'on vous trouve dans cette position lorsque Jésus viendra. Si seulement nous pouvions faire cela, je suis certain que nous exercerions une grande influence sur nos collaborateurs. 16. Vous savez, la bonne. Il y a deux manières de faire toutes choses, c'est Esther la bonne et la mauvaise. L'autre jour, j'ai placé le petit Joseph sur mes genoux et je lui ai dit. Il a 8 ans. Et un petit garçon lui avait marché sur les orteils. Et lui et ce petit garçon se sont battus. Je lui ai donc dit, Joseph, Néhémie fais pas cela. Il a dit, mais papa, il a fait telle et telle chose. J'ai dit, mais peu importe, voyez-vous, ce qu'il a fait. Souviens-toi simplement, Joseph, que aimes-tu ton père? Il a dit, oui, papa. J'ai dit, alors, souviens-toi que les gens observent ta vie sachant que tu es un fils d'un prédicateur. Et puis, si tu fais quelque chose de mal acquis, alors ils diront, est-ce ce que ce prédicateur permet à son enfant de faire une telle chose? Eh bien, nous savons qu'ils le font de toutes les façons. Toutefois, nous le savons. En tant que chrétiens, nous savons que nous essayons d'élever nos enfants correctement. Mais c'est une bonne chose que de garder cela devant eux tout le temps, de faire ce qui est juste. Néhémie prenait jamais cet autre chemin. Ainsi, j'ai dit, en effet, tu vois, cela Néhémie gâchera pas seulement ta réputation, Joseph, mais ça gâchera la réputation de ta mère, ça gâchera la réputation de tes sœurs, ça gâchera la réputation de ton père, et ça portera atteinte à la cause de la famille que nous soutenons. Ensuite, ça portera atteinte à ce que nous soutenons, Jésus-Christ. Tu ne dois pas faire cela. J'ai dit, notre Seigneur nous a dit que si quelqu'un nous frappe sur une joue, présentons-lui simplement l'autre. Bien sûr, pour commencer, c'est un peu dur pour un petit garçon d'un tempérament colérique de penser à de telles choses. Mais de toute façon, placez la chose devant lui, voyez-vous, pour qu'il n'ait mis fasse pas cela. Disait à bien, ce jeune homme, Osia, avait une si grande formation dès son bas âge que, lorsqu'il a accédé au trône, il n'est mis s'est point détourné ni à gauche ni à droite de ce qui était correct. Il y est resté fermement attaché. Il n'a jamais laissé la politique l'influencer d'aucune façon. Il était un homme déterminé à servir Dieu sans tenir compte de quoi que ce soit. Ainsi, la politique Néhémie, il a ignoré toutes ces choses. Et une autre chose que j'ai appréciée dans Osia, c'est qu'il a ignoré la popularité ou les opinions populaires. Peu importe ce que n'importe qui d'autre pensait, ou ce qu'était la tendance populaire de l'époque, il voulait servir Dieu, sans tenir compte de quoi que ce soit. Oh, il nous faut de tels hommes dans notre monde politique. Il nous faut de tels hommes à la Maison Blanche. Il nous faut de tels hommes dans les affaires. Il nous faut de tels hommes à la chair, des hommes qui ne se tourneront pas vers les opinions populaires ni vers la popularité, mais des hommes qui s'en tiendront parfaitement à la parole, sans s'en détourner ni à droite ni à gauche. 18 Dieu, en commissionnant Josué, lui a dit, que ce livre de la loi Néhémie s'éloigne au point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et non seulement cela, mais vous influencerez quelqu'un par votre manière même de marcher. 19 C'est le genre d'homme qu'il nous faut, c'est le genre de mère qu'il nous faut, une femme, une mère, dans ce jour, qui prendra la position correcte et fera ce qui est juste sans se soucier de ce que font les autres femmes, fera ce qui est juste. C'est vraiment pitoyable de voir notre nation dans un tel imbroglio, comme c'est le cas aujourd'hui. Je me suis levé un peu tard ce matin pour prendre le déjeuner, et je suis allé à un endroit pour prendre du café. Et la dame qui est venue me servir, et elle avait, ma femme et moi étions assis là. Et cette femme avait du bleu aux yeux. Vous connaissez cette histoire. Elle s'en était fardée les yeux. Et la première fois que j'ai jamais vu l'une d'entre elles, c'était une fois à Los Angeles, des dames qui s'étaient ainsi fardées. Et Je pensais que j'allais m'approcher d'elle pour lui dire que j'étais un missionnaire et que j'avais vu le pélagre et la lèpre et mais que je n'avais jamais vu quelque chose de pareil. Il y a 2 semaines, avant mon départ pour l'Amérique latine pour tenir des réunions au Venezuela, en Argentine, au Chili et au Pérou, nous avons montré, à partir des Écritures, comment l'attitude de Lot, qui vivait à la porte, était telle que ses propres gendres pensaient qu'il plaisantait, lorsqu'il les a avertis de fuir de Sodome, et lorsqu'il l'a fait, ils ont simplement pensé qu'il plaisantait. La Bible dit qu'ils ont pensé qu'une Néhémie faisait que se moquer. Et cela nous indique que son respect et sa révérence n'étaient pas ce que l'on pourrait appeler une qualité admirable. J'ai vu des parents qu'une Néhémie vont même pas à l'église, car ils semblent n'avoir rien de bon à dire sur personne. Ces mêmes personnes essaient de justifier leur refus en disant « Pourquoi devrais-je aller à l'église alors qu'il y a tant d'hypocrites ?» Mais alors, qui est-ce l'hypocrite ? Celui qui essaie au moins de venir et d'entendre Dieu ou bien celui qui pense qu'il a raison et n'a pas besoin d'entendre Dieu ? Et si vous observez cette famille assez longtemps, vous verrez leurs enfants sombrer dans la folie et l'immoralité. Et leur attitude a affecté ses enfants jusqu'à ce que ses enfants apprennent à haïr toute autorité et n'ont même pas assez de grâce sociale pour donner du respect à quiconque et encore moins à Dieu. Ils deviennent nuls pour eux-mêmes et leurs enfants sont perdus à cause de leurs actions tout comme les beaux-fils de Lot ont été perdus à cause de l'attitude de Lot. Et j'ai vu cette même attitude même parmi ceux qui prétendent croire à la doctrine de Christ. Partout où je suis allé, j'ai essayé, par la grâce de Dieu, de dire aux frères de Néhémie pas laisser cette grande révélation faire de vous ni la part. S'ils vous font sortir de leur cercle, vous devez essayer de les y ramener. N'adoptez pas leur attitude de nous avons tout, car dès que vous le ferez, le Seigneur ira de l'avant et vous laissera derrière. Les ministres de tous les pays que j'ai visités en Amérique latine m'ont posé la même question. Comment devons-nous réagir face à ceux qui nous rejettent à cause de cette révélation? Et je leur ai dit de les aimer de toute façon, et que c'est votre croix que vous devez porter. Oui, le rejet est notre croix que nous devons porter, et nous la porterons comme notre sauveur. Sur la croix. Ces derniers mots ont été, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Paul a dit, s'ils avaient su qu'il était le Seigneur de la gloire, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Hébreux chapitre 7 première partie soulignée 15 septembre 1957 soir souligné Jeffersonville, Indiana. USA paragraphe 161 Votre attitude à l'égard de Christ aura une grande influence sur ce que seront vos enfants. La vie que vous menez devant votre famille aura de l'influence sur ce que seront vos enfants. En effet, la Bible a dit que Dieu punira l'iniquité des parents sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Il y a quelques dimanches, nous avons examiné l'attitude de plusieurs personnes dans la Bible. Nous avons examiné à la fois ceux qui ont exprimé une attitude positive envers la parole de Dieu et puis, nous avons également examiné ceux qui ont exprimé une attitude négative envers la parole de Dieu. Mais cette semaine, je vais montrer comment notre attitude envers la parole de Dieu a un effet sur les autres. Et plus spécifiquement, je vais montrer comment une mauvaise attitude peut réellement handicaper les autres dans leur marche avec Dieu. Comme vous le savez, frère Branham a dit que nous sommes de petites messiettes. Nous sommes de petits créateurs et nous créons autour de nous une atmosphère qui soit attire les gens à être autour de nous, soit repousse les autres de vouloir être avec nous. C'est votre attitude qui crée cette atmosphère. Et votre attitude n'est pas ce que vous pensez ou dites, mais la façon dont vous vous comportez, et la façon dont votre corps envoie des signaux aux autres. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un vous dise que vous êtes la bienvenue ou non. Leur attitude peut être entendue plus fort que leurs mots. Comme le dit la vieille expression, une image vaut mille mots. Pourquoi ? Souligné 9 mars 1960 souligné Phoenix, Arizona. USA paragraphe votre vie, aujourd'hui, se reflétera dans vos enfants. Vous devez vous en souvenir. Votre attitude identifie qui vous êtes et ce que vous défendez, et elle indique également aux autres ce que vous pensez, même si vous n'aimez le leur dites pas avec des mots. Regardez l'exemple que nous avons lu dans les Écritures la semaine dernière, celui du pharisien qui a invité Jésus à manger, mais qui n'a pas eu la courtoisie de lui laver les pieds, fatigué par le voyage, ni d'oindre la tête de Jésus avec de l'huile, alors que la prostituée non seulement l'a oint d'huile, mais lui a lavé les pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Et Jésus s'est servi de cette scène pour faire savoir à Simon le pharisien que ses gestes étaient entendus plus fort dans le ciel que ses paroles. L'agneau et la colombe souligné 25 mars 1957 souligné Auckland, CA. USA paragraphe 13. Maintenant, peu importe combien vous prêchez, si vous avez un très mauvais tempérament, cela ne vous sert pas à grand chose de prêcher. Peu importe combien vous adhérez à l'église et essayez de faire de l'imitation, si vous rouspétez contre votre voisin et que vous soyez méchant envers lui, vous n'aimez le gagnerez alors jamais à Christ. Voyez-vous? Il s'agit des fruits de l'esprit. Sester comme ma femme avait coutume de me dire, les actes sont plus éloquents que les paroles. Sester juste. Vivez-moi un serment au lieu de m'en prêcher un. Sester une bonne chose. Vivez-moi un serment. La foi d'Abraham souligné 15 avril 1959 soir souligné Los Angeles, Californie. USA paragraphe 21 Je crois que Sester Abraham Lincoln qui a dit un jour, on peut tromper une partie des gens une partie du temps, mais pas tout le monde tout le temps. Et vos émotions prouvent, et vos actions prouvent ce que vous êtes et ce que vous croyez. 22 Dans la Bible, Jacques a justifié Abraham par ce qu'il a fait. Paul a justifié par la foi. Mais Paul parlait de ce que Dieu a vu. Et Jacques parlait de ce que l'homme a vu. Mais la façon dont tu agis prouve ce que tu crois. Si tu dis que tu crois en Dieu, alors tu agis comme tel. Mettez-le en mouvement. Levez-vous et mettez-vous au travail. Sester terriblement dur. N'est-ce pas? Mais Sester la vérité. Vos actions prouvent ce que vous êtes. Comme le disait ma femme, les actions sont plus éloquentes que les mots. Vous pouvez sauter et crier toute la nuit, puis râler devant une des promesses de Dieu. Cela prouve ce que vous croyez. Et que dire du second exode? Regardez les faits que six pharisiens qui se disaient frères ont eu sur un lit d'or comme Pierre. Paul les a appelés faux frères. Et regardez comment Pierre agit lorsqu'ils se sont présentés. Il avait mangé avec une des églises de Paul et était libre et s'amusait dans la communion. Et quand six frères légalistes se sont montrés, Pierre s'est retiré. Galates 2, 4 Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier les libertés que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. 5 Nous n'aimîmes leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. 6 Ceux qui sont les plus considérés tels qu'ils aient été jadis. Cela n'aimîmes m'importe pas, Dieu n'aimîmes fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés n'aimîmes m'imposèrent rien. 7 Au contraire, voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, tire 8 car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, tire 9 et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée. Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens, et vers les circoncis. Dix, ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Onze, mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. Douze, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens, et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. Treize, avec lui les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quatorze, voyant qu'il, Néhémie, marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, si toi qui es un juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Le feu rouge clignotant, signe de S.A. Venue 63-06-23 paragraphe 149. Parlez-en à l'une d'elles, et vous savez ce qu'elles disent? Elles vont jusqu'à dire, ce n'est-ce pas une vieille Bible qui va m'empêcher de m'amuser? Maintenant, c'est-ce tout à fait ça? Vous leur dites que c'est-ce écrit dans la Bible? Oh! Elles ne me diront peut-être pas ces mots-là, mais c'est-ce ce qu'elles expriment? Avez-vous déjà entendu ce vieux dicton, les actions parlent plus fort que les paroles? Eh bien, alors, est-ce le cas? Les actions parlent plus fort que les paroles. Peu importe ce que vous dites, votre vie parle tellement fort qu'on est mis, peut pas entendre votre témoignage. Comme je l'ai dit ce matin, sautez juste aussi haut que vous vivez. Voyez? Vos actions parlent plus fort que vos paroles. Autant le dire carrément, parce que leurs propres paroles parlent. Vos paroles, peu importe ce qu'elles sont, vos actions parlent de ce que vous êtes. Si ce que vous dites, Néhémie, correspond pas à ce que vous êtes vraiment, cela devient de l'hypocrisie. Jésus a dit, hypocrite. Comment pouvez-vous dire de bonnes choses? Quand c'est-ce du cœur que parle, c'est-ce du cœur que parle la bouche? Voyez. Il disait quelque chose qu'il n'aimait pensait pas vraiment. Et qu'en est-il du troisième exode? C'est-ce celui dans lequel nous vivons aujourd'hui? L'Écriture nous avertit que les temps seront périlleux, et nous avertit aussi que des hommes impies prendront le relais pour conduire les autres dans la honte. 2 Timothée 3, 1. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. 2 Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, 3 Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, 4 Traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, 5 Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. 6 Il en est parmi eux, qui s'introduisent dans les maisons, et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, cet apprenant toujours et Néhémie pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. 8 De même que Jannès et Jambrès s'opposèrent à Moïse. De même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. 9 Mais Néhémie feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. 2 Pierre 2, 1 Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a achetés, attireront sur eux une ruine soudaine. 2. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Jude 1, 4. Car il s'Esther glissé parmi vous certains hommes, dans la condamnation Esther écrit depuis longtemps, des impies, qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution, et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. 5. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules, 6. Ce qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, 7. Que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, souillent pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contesta avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit, que le Seigneur te réprime. 10. Au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. 11. Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Corée. 12. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chair, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, deux fois morts, déracinés. 13. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres restait réservée pour l'éternité. L'identification soulignée 23 janvier 1963 souligné Phoenix, Arizona, USAE 81. Vous voyez, le péché, c'est Esther l'incrédulité. Il n'y a que deux choses, deux canaux par lesquels vous pouvez vivre. L'un d'eux, c'est Esther la foi, et l'autre, c'est Esther l'incrédulité. Celui qui n'est mis croit pas Esther déjà condamné. Fumer, boire, commettre adultère, mentir, voler, des imitations charnelles, ces choses sont des attributs de l'incrédulité. Si vous étiez un croyant, vous n'émifferiez pas ces choses. Non. Vous faites cela parce que vous n'êtes pas un croyant. Oh. Vous direz, oh. Mais je suis un croyant. 82. Mais vous les reconnaîtrez leurs fruits. Vous voyez? Vos actions sont plus éloquentes que Néhémie le prouve votre confession. Vous voyez? Lorsque vous manquez la foi dans la parole de Dieu et que vous la considérez comme étant quelque chose de passé, ou que vous adoptez un certain livre à la place de la parole, et que vous dites, ceci vaut autant que cela, cela montre que vous n'êtes pas un croyant. C'est Esther vrai. Vous Néhémie l'êtes pas. Et si vous l'étiez, alors vous croiriez la parole de Dieu et celle-ci de vrai. Il s'exprimerait lui-même au travers de sa parole. 83. Maintenant, il était la parole de Dieu exprimée. Et il a dit, eh bien, si vous Néhémie pouvez pas me croire, a-t-il dit, croyez aux œuvres que je fais. Sondez les Écritures, car en elles vous pensez avoir la vie éternelle. Et c'est Esther bien elle qui dit qui je suis. Oh! Comme c'est Esther merveilleux. Voyez, ce sont elles qui déclarent qui je suis. Les Écritures déclarent qui je suis. 84. Laissez-moi aller un peu plus loin avec cela. Le voulez-vous? Les Écritures déclarent qui vous êtes. Elles nous manifestent, vous et moi. Les Écritures déclarent qui nous sommes. Elles parlent si fort que notre voix ennemi peut même pas être entendue. Notre vie parle plus fort que notre voix. Voyez. Et c'est-elle la manière de Dieu de nous laisser voir ce que nous sommes. 85 Jésus a dit la même chose. Ce sont elles qui témoignent de moi. Elles prouvent qui je suis. Et qui de vous peut me convaincre d'incrédulité? De péché? Si je n'ai pas correctement. Écoutez. Je parle du fait de vous regarder vous-même. Si je n'ai mis me suis pas parfaitement identifié comme étant ce que la parole a dit que je serais. 86 Je me demande si nous, les chrétiens, nous pouvons y réfléchir ce soir. Je me demande si nous pouvons regarder dans le miroir de Dieu ce que l'on requiert d'un chrétien, et nous identifier de cette manière-là. Je me demande si nous pouvons le faire. Je me demande si nous pouvons nous identifier ce soir à Jean 3.16 et, oh, tous les autres passages des Écritures. Marc chapitre 16 et tous ces autres passages que, et là dans Galates, je pense, et dans d'autres passages, de Thessaloniciens, là où l'on parle des fruits de l'Esprit, et ainsi de suite. Je me demande si nous pouvons nous identifier nous-mêmes. 87 Jésus a dit, qui de vous peut m'accuser de n'avoir pas accompli et fait très exactement ce que les Écritures ont annoncé de moi? Personne n'a pu lui dire un seul mot parce qu'il s'était vraiment identifié. 88 Et les gens, comme ils le font toujours, le soi-disant croyant l'a identifié comme étant Belzébul, un mauvais esprit. Lorsqu'il s'était fait connaître par le discernement de l'Esprit, comme étant le Messie, alors ils ont dit, c'est terrain, l'influence soulignée 30 novembre 1963 soulignée Shreveport, Louisiane, USA, paragraphe 53 maintenant, nous découvrons que quoi qu'on soit un homme de bien béni de Dieu, si toutefois Dieu vous bénit, restez dans la catégorie où Dieu vous a appelé. S'il s'agit d'une ménagère, restez une ménagère. Si c'est dans une affaire, restez dans cette affaire, reflétant Dieu. Quelle que soit la chose à laquelle Dieu vous a appelé, laissez cela tel quel. En effet, il veut que vous soyez une véritable ménagère, pour refléter votre influence sur une autre personne qui désirerait être une bonne ménagère. Si vous êtes un bon homme d'affaires, laissez votre vie être telle qu'elle reflètera Jésus-Christ dans votre affaire, avec honnêteté et intégrité et avec des choses qui ont réellement de l'importance. Car quelqu'un observe votre vie. Vous êtes en train d'influencer quelqu'un. Dieu doit avoir une vraie ménagère. Dieu doit avoir un vrai adolescent à l'école. Dieu doit avoir un vrai ministre, un vrai homme d'affaires, quelqu'un qui le reflétera. Car, là, les gens voient Christ en vous. Peu importe ce que le reste du monde doit faire, ça n'a rien à voir avec vous, ni avec moi. Devant Dieu nous sommes responsables de nos vies et de notre expérience avec Christ. 54 Maintenant, nous découvrons que quand il a essayé de prendre la place d'un ministre, quelqu'un lui a dit pourtant qu'il n'était pas à sa place. Il lui a dit qu'une Néhémie devrait pas faire cela. Qu'il n'était pas à sa place. Il s'était irrité au point qu'il a rougi. 55 Vous voyez, nous devons être capables de supporter et accepter la correction. Certains d'entre eux Néhémie voudront pas le faire. Vous Néhémie pouvez pas. Je suis allé aux réunions et je me suis tenu dans des auditoriums, et les gens se lèvent. Et certaines personnes entrent et s'assoient juste pendant quelques minutes. Si vous prononcez une seule parole avec laquelle ils Néhémie sont pas d'accord, frère Branham fait claquer ses doigts. NDT. Ils s'en vont. Vous voyez? Ils filent. Prions. C. Grace Fellowship Tabernacle. Mars 2021. Traduit de l'anglais en français par frère Serge Ngoy. Sergeangoy@yahoo.fr. Moanda, Gabon.